Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Analyse F1. Aujourd'hui, je vais parler de deux écuries au destin très différent. En l'occurrence, Mercedes et Sauber. Donc vous l'avez compris, un Mercedes, en lisant le titre, vous l'avez compris, Mercedes et l'écurie du moment, l'écurie phare, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors que Sauber est au contraire l'écurie qui inexorablement descend dans la hiérarchie, et je vais aussi essayer d'expliquer pourquoi. Tout d'abord, parlons de Mercedes dans la première partie de l'émission. Alors, il faut revenir à 2012. En 2012, quand Mercedes n'était pas au mieux et venait de connaître trois saisons avec très peu de podiums, très peu de succès évidemment, et des places au championnat du monde des constructeurs qui n'ont pas satisfait les propriétaires de la marque allemande et les investisseurs. Par conséquent, il y a eu des doutes sur le retrait de Mercedes et ils ont mis en œuvre une sorte de plan de redressement. Un plan de redressement pour les années 2013 et 2014 qui visait à ce que Mercedes lutte pour le titre en 2014. Donc en 2013, c'était le début du plan de redressement avec tout un développement sur la monoplace pour mieux comprendre les spécificités aérodynamiques, les spécificités d'une monoplace de F1 pour tout simplement arriver au mieux en 2014. Donc c'était une année de préparation 2013 et c'était d'autant plus une année de préparation que pendant les essais hivernaux, Hamilton avait même déclaré, les essais hivernaux pré-saison 2013, Hamilton avait déclaré que si Mercedes au Grand Prix d'Australie est deuxième et 15 et comment dire arrive 15e au drapeau à damier, eh bien il ne serait pas surpris et parce que l'année 2013 est vraiment une année on va dire de transition. Donc finalement Mercedes a même très bien joué sa carte lors de l'année de transition, puisqu'ils sont parvenus à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs. Donc là, c'était vraiment une transition très bonne. Et c'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi Mercedes est aussi dominatrice en 2014. Car oui, en 2014, c'est vraiment la voiture dominante. Ils ont vraiment bâti une voiture pour la gagne, et ils ont en plus deux super pilotes. Donc c'est vraiment deux arguments majeurs dans leur succès actuel. Alors, je vais parler des pilotes, et évidemment, ils ont un moteur aussi très bien conçu. Bref, ils ont tous les facteurs pour être là où ils en sont, tout simplement. Alors, les pilotes Rosberg et Hamilton, évidemment, on assiste à un superbe duel cette saison entre les deux, qui va durer vraisemblablement jusqu'au bout. Et ce qui est beau dans les duels comme ça, dans les rivalités entre deux pilotes d'une même écurie, c'est qu'ils se poussent mutuellement. Chacun a accès aux data de l'autre, même s'il y a eu quelques petites cachotteries hein, des uns et des autres, mais finalement, ça a été, on va dire, rétabli à la normale. Mais voilà, on a une superbe rivalité entre les deux, parce qu'ils se poussent mutuellement, c'est ça qui est beau. Ils se poussent mutuellement. L'un va faire un temps, l'autre va essayer de comprendre pourquoi son coéquipier a fait ce temps. Par exemple, en guise d'illustration, Rosberg avait déclaré avoir regardé les données d'Hamilton, les données autour d'un Grand Prix quelconque, hein, je ne sais plus lequel, pour mieux comprendre là où Hamilton était plus fort. Et il l'a compris. Et du coup, il a adapté son pilotage à certains secteurs, à une certaine portion de piste, pour pouvoir être au niveau sur les prochains Grands Prix. Et en effet, ben, ça a l'air d'avoir porté ses fruits, puisque Rosberg est sur une très bonne série en qualification. Très bonne série en qualification. Et c'est ce qui est beau, hein, franchement. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont vraiment au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au-dessus. Chacun se pousse. Le développement de la Mercedes est continu. Bref, ils sont imbattables cette année. Il n'y a que eux deux qui comptent. Et ils sont vraiment sur une autre planète. Et en plus, ça permet aux deux de vraiment se pousser au-delà de leurs limites, hein, vraiment au-delà de leurs limites hein, qu'on leur connaissait. Surtout Rosberg qui n'a pas encore été champion du monde. Donc c'est bien de voir ce pilote à ce niveau et lutter avec Hamilton. Donc voilà, cette rivalité, elle croît avec le temps, elle augmente avec le temps, hein. On le voit bien à travers les déclarations dans la presse, souvent, comment dire, sujettes à polémique. Et voilà, ça nous offre un magnifique spectacle. Franchement, on n'est pas déçu avec ces deux pilotes et avec cette écurie. Magnifique spectacle, par exemple à Bahreïn, un superbe duel. Hein. C'était pourtant que les premiers Grands Prix de la saison, mais on a eu un duel très propre, un duel de champions, quoi, de champions potentiels. Et on espère en revoir d'autres cette saison, évidemment. Mais je pense que ça va durer jusqu'au bout, vraiment. Jusqu'à Abu Dhabi, je pense, on aura une lutte de tous les instants entre les deux. Que ce soit sur la piste, vraiment en course ou dans les qualifs. Alors maintenant, du point de vue de l'écurie, parce que parler du point de vue des pilotes, c'est pas mal. Mais le point de vue de l'écurie est également important, parce qu'il y a toute une gestion humaine à opérer. Et de ce point de vue-là, Mercedes s'en sort pas trop mal, mais c'est mitigé. On va dire que ce n'est pas non plus parfait. Et on peut les comprendre, c'est très difficile pour toute écurie de gérer ce genre de rivalité. C'est rare finalement en Formule 1 de retrouver une rivalité au top, comme ça au top niveau. C'est-à-dire qu'on sait que l'écurie va être championne du monde et ensuite les deux vont lutter pour le titre. Ou en tout cas, il y a les deux pilotes qui vont lutter pour le titre. En date, la dernière que j'ai notée, c'est Alonso Hamilton en 2007. Encore, on retrouve Hamilton, mais on trouve Alonso. Donc voilà, deux pilotes vraiment qui en veulent, et ça s'était très mal fini chez McLaren, on s'en souvient. Ça n'a duré qu'un an cette histoire. Bon ensuite, une histoire quand même beaucoup plus connue en termes de rivalité, hein, vous l'avez sur le bout de la langue, et c'est Ayrton Senna contre Alain Prost, évidemment. Là ça a duré 2 ans avec surtout l'année 89 très compliquée. Donc voilà, et au milieu de tout ça, l'écurie doit gérer. Et c'est quand même très compliqué. On l'a vu en Hongrie, et avec une consigne vraiment, mais désastreuse. C'est le meilleur moyen, ça. Ou le pire, enfin, peu importe, c'est le meilleur moyen de scinder une équipe avec ses pilotes. Il faut vraiment pas que ça se reproduise. Heureusement que Mercedes a très vite admis son erreur. Le premier, c'était Niki Lauda, à parler dans la presse, en parlant d'erreur de l'écurie. Ensuite, l'écurie avec Toto Wolff, etc., se sont mis à admettre leur erreur. Mais il faut faire très attention. Évidemment, Rosberg avait essayé d'en profiter de cette consigne. Ils vont tout faire, les deux, ils vont tout faire pour se battre jusqu'au bout, quitte à profiter d'une consigne injuste. Ils vont essayer. Mais heureusement, Hamilton n'avait pas suivi cette consigne. Il a eu raison. Quand deux pilotes luttent pour le titre et qu'ils sont dans la même écurie, il n'y a pas à donner de consigne, surtout dans un stade assez avancé dans la saison, si c'est au, je sais pas, deuxième ou troisième Grand Prix, parce qu'on doit encore grappiller des points et que c'est pas fait encore pour le titre, qu'on ne sait pas qu'il y aura une domination encore. D'accord, bon, il peut y avoir des consignes, il y en a toujours eu en Formule 1, et puis si ça peut profiter à l'écurie, parce que c'est aussi un sport d'équipe, d'accord. Mais là, non, c'était vraiment pas le moment, c'était vraiment inopportun. Et donc, suite à cette affaire, eh bien, on va voir dans les courses à venir comment Hamilton va se comporter à l'égard de son écurie, si il va y avoir de la distance ou pas. J'espère que le mal n'est pas fait. Toto Wolff, parlons-en, président exécutif de Mercedes, ou directeur exécutif, a dit que l'agenda du groupe passe avant l'agenda personnel. Parce qu'il a parlé un peu de cette rivalité et il a tenu à rétablir les choses, parce que c'est important que Mercedes, que l'institution Mercedes passe avant les pilotes. Et je pense évidemment qu'il a bien fait de faire ce genre de déclaration, parce que dans tout sport, on va dire, d'équipe, c'est important de rappeler que l'équipe passe avant les joueurs. L'institution passe avant les joueurs. Les joueurs passent ou les pilotes passent, mais l'institution reste. Ça, c'est une base à connaître. Et évidemment, on leur rappelle à Rosberg et Hamilton très souvent cela. Mais c'est notamment pour l'extérieur de la piste, évidemment. Je pense que cette déclaration de Toto Wolff, il faut vraiment l'interpréter. Il faut faire attention quand on lit un article, quand on lit les titres d'articles, qui sont souvent, malheureusement, racoleurs. Il faut faire attention à vraiment lire vraiment l'interview. C'est-à-dire que les mots de Toto Wolff, à mon avis, c'était destiné à ce qui se passe en dehors de la piste, évidemment, concernant les agendas. Ensuite, il a dit que le message était globalement bien compris de la part de Rosberg et Hamilton, ces deux pilotes quand même assez professionnels, qui ne vont pas on va dire, insulter leur écurie qui leur permet de lutter pour le championnat du monde. Ils ont une fantastique voiture, ils n'arrêtent pas de le dire, de remercier l'équipe et tout. Il n'y a pas de souci pour ça, il y a un grand respect mutuel, malgré quelques consignes, comme je l'ai dit, un peu bizarres, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, en piste, le titre pilote prime, hein, pour ces pilotes. On ne peut pas leur demander de ralentir ou quoi. D'ailleurs, Hamilton, hein, dans les conversations radio, il est limite parano des fois, hein, de certains trucs. Il dit, mais cette stratégie, est-ce qu'il y a un risque pour que Nico me rattrape? Où est Nico? Du côté de Rosberg, ça doit être pareil. Il demande aussi, où est Hamilton? C'est vraiment la course dans la course. Il n'y a que deux pour eux deux. Il n'y a que deux. Ils doivent finir l'un devant l'autre. Et c'est quasi tout ce qui compte après. Évidemment, la victoire sur un Grand Prix est très importante également. Alors c'est pour ça, pour un peu évacuer toute la pression, Mercedes fait un truc très bien. Ils organisent des débriefings. Des débriefings où il va y avoir beaucoup de discussions entre les pilotes, entre l'écurie, les ingénieurs, entre le team principal, etc. Les ingénieurs de piste des pilotes. Et à mon avis, c'est très important en tant que processus psychologique de faire ça. Mais bon, au fond d'eux, même s'ils peuvent déclarer que, comment dire, que voilà, ils sont contents par exemple pour l'écurie. Souvent, c'est un exercice de communication, hein, quand ils disent je suis content pour l'écurie, les deux monoplaces sont bien placées. Mais voilà, ensuite ils placent quand même dans l'interview généralement que j'ai fini derrière devant Nico ou devant Lewis, hein, c'est très bien. Bref, on comprend très bien, même s'il joue la carte de la communication, on se rend très bien compte, même dans ce genre d'exercice, que même à travers des interviews bateaux, on ressent quand même que les deux ont envie de gagner le titre de champion du monde et qu'on ne pourra pas leur enlever ça. On ne pourra jamais leur enlever cette hargne, cette pression, cette adrénaline, cette envie de dépasser l'autre, de dépasser un coéquipier qui a la même monoplace, qui a un talent fou et donc pouvoir prouver au monde entier qui est le meilleur. C'est magnifique de voir ça. Et il faut vraiment en profiter. Cette année 2014, déjà en termes de nouveautés, d'innovation, elle est à signaler, parce qu'à mon avis, elle fera date dans l'histoire du sport, dans l'histoire même peut-être de l'automobile, hein. Je m'avance beaucoup là en disant ça. Mais je pense que dans les années 2020, on verra véritablement la portée de ce qui fait, de ce qui est commencé en F1 aujourd'hui, de ce qui est commencé en Formule E cette année. Je pense que dans les années 2020, on s'en rendra compte et j'espère que l'influence de la Formule 1 et de la Formule E seront signalées, évidemment. Bref, les deux pilotes vont lutter jusqu'au bout. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, qui pour remporter le titre de champion du monde? Alors là, vous allez me demander, et toi, c'est quoi ton pronostic? Qui va gagner? Franchement, pour moi, c'est très indécis. Je n'en nommerai aucun, parce que pour moi, ils ont des performances très proches. Et ça va être proche jusqu'au bout, ça va jouer sur des détails, mais des détails très importants, des détails qui font un champion du monde, tout simplement. En ce moment, pour parler du moment, à l'instant T, c'est-à-dire avant le Grand Prix de Spa, pour vous situer un peu l'émission, si vous n'avez, enfin, pour vous situer un peu le podcast, si vous n'avez pas vu la date de publication, eh bien, Rosberg est sur une bonne lancée en termes de qualification, c'est-à-dire que au départ, à chaque fois, il a quand même plusieurs secondes d'avance en termes de bagage sur Lewis Hamilton. Et ça, c'est un problème qui vient d'Hamilton parce que il a raté quelques qualifications lui-même. Il a aussi eu des problèmes mécaniques malheureux. Et voilà, il doit rebondir à Spa. C'est le bon endroit, je pense, pour rebondir et pour montrer qu'en qualif, il peut dépasser son coéquipier ou du moins revenir même dans les deux premières lignes des qualifs parce que ces derniers temps, hein, il était très loin et c'est très risqué. C'est très risqué d'être très loin, faut pas qu'il s'y habitue, parce que, évidemment, au départ, quand on est au fond de grille, évidemment, on multiplie les risques d'être pris dans un accrochage. On multiplie ces risques-là. Et donc, attention, il ne pourra pas toujours faire de telles remontées comme il l'a pu le faire en Hongrie, hein, où il a aussi profité de certaines conditions météorologiques. Il avait aussi remonté de très loin au Grand Prix d'avant. Mais il ne pourra pas toujours profiter de ça, hein. Il y a des risques supplémentaires quand on part en fond de grille. Ensuite, voilà Mercedes, est-ce qu'ils pourront retenir les deux pilotes pour 2015? Ça aussi, c'est la question, parce que c'est une année très fatigante. Une année, je crois qu'il y a 19 Grands Prix cette saison. C'est très fatigant pour l'écurie, pour les pilotes également, de gérer tout ça. Et faut voir dans quel état psychologique Rosberg ou Hamilton se retrouveront en fin de saison. Ça peut être compliqué, donc moi je suis aussi indécis sur le line-up Mercedes de la saison prochaine. Même si Rosberg semble confirmé, pour Hamilton, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas. Ça va être compliqué. En tout cas, la deuxième saison risque d'être plus compliquée que la première, si jamais le line-up reste le même. Et bien voilà, on a parlé de Mercedes. Maintenant, c'est l'heure d'une petite pause musicale et on se retrouvera pour parler de l'écurie suisse Sauber. À tout de suite. On est de retour dans Analyse F1 et vous venez d'écouter un extrait d'une composition de Johannes Brahms, la symphonie numéro 4 en mi mineur, opus 98, Allegro, Energico et Passionato. Et donc on est donc de retour, oui, pour parler de Sauber, une écurie plus que touchable hein, selon moi. Ça veut tout dire, ça veut à la fois rien dire et tout dire, mais je vais essayer d'expliquer cette expression évidemment. Alors déjà, pourquoi parler de Sauber ? Parce que selon moi, c'est une saison qui commence à être historique hein, pour cette écurie, tristement historique. Il faut déjà rappeler les faits. Sauber, donc l'écurie suisse, est une écurie bien ancrée en F1, puisqu'elle est là depuis 1993. Et oui, quand même, 21 ans que Sauber est en F1. Il y a eu un petit intermède avec BMW qui avait racheté Sauber, mais mis à part ça, ça fait 21 ans que l'écurie est en Formule 1. Depuis ces 21 ans, quand même, de carrière qu'a fait Sauber, quelques victoires, pas mal de podiums, et surtout, toutes les saisons, Sauber a fini dans les points, a eu au moins quelques points, avec des fortunes diverses, mais globalement, ça a été une écurie de milieu de tableau la majeure partie du temps. Alors voilà, ils ont toujours marqué des points, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'auparavant, il y a quand même de nombreuses années, le système de points était différent. Ils ont connu le système de points où il n'y avait que les 6 premiers qui marquaient des points. Et ensuite, le système de points avec seulement les 8 premiers qui marquaient des points. Et pourtant, Sauber a toujours été dans les points, quel que soit le système de distribution des points. Et là, cette année, c'est là qu'il y a quand même un problème, puisque Sauber, alors que les 10 premiers ont droit au point, je le rappelle, Sauber n'a aucun point, zéro, nada, niet. Et même derrière Marussia, derrière la petite écurie Marussia, qui a quand même remporté, qui a eu droit à quelques points grâce à Jules Bianchi et sa fantastique performance sur le Grand Prix de Monaco, signalons-le quand même. Donc voilà, Sauber, c'est vraiment un choc pour cette écurie et on va essayer d'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il y a des difficultés financières à noter qui datent de 2013 et évidemment, quand une écurie a des difficultés financières en 2013, ça se répercute sur 2014, donc cette année. Donc évidemment, avoir moins d'argent, c'est un frein pour avoir un bon développement de la monoplace et ça a été un frein au départ pour avoir une bonne monoplace de base. Ensuite, voilà, on peut critiquer aussi peut-être le savoir-faire qui n'est pas aussi peut-être pas le bon pour avoir une écurie, une bonne monoplace avec un faible coût. Mais là, j'ai envie de nuancer ce propos directement. Pourquoi ? Parce que très peu d'écuries arrivent à faire ça. Il y avait une exception qui confirme la règle, c'était la Lotus. La Lotus, ces dernières années, qui arrivait très bien à faire ça. Avec notamment les prouesses de James Allison. Mais voilà, ça reste une exception qui confirme la règle. Donc la règle, c'est que quand une écurie a très peu de budget, évidemment, elle sera dans le bas du tableau. C'est la logique. Et ensuite, deuxième raison pour laquelle Sauber est aussi faible cette année, c'est ses pilotes. Ses pilotes sont pas les meilleurs pilotes du plateau et c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis gentil. Adrian Sutil est un pilote qui vient de Force India de 2013, mais qui a fait des performances moyennes avec Force India. On attendait beaucoup mieux d'un pilote de cette expérience et surtout qui avait montré plus de choses auparavant. Il avait montré plus de choses auparavant chez Force India les autres années. L'année dernière, il est revenu, comeback en F1, et il n'a rien montré, rien du tout. Gutiérrez, c'est un pilote, c'est sa deuxième année en Formule 1. Attention, deuxième année, première année, il n'a rien montré, deuxième année, il ne montre rien non plus. Faut qu'il fasse attention, c'est peut-être sa dernière année en F1. Pareil avec Adrian Sutil qui a déclaré être content de sa carrière en F1, bon. C'est dire le peu d'ambition qu'il a et ça peut expliquer aussi pourquoi il ne s'améliore pas et même il ne retrouve même pas le niveau qu'il avait pu avoir avant. Donc là c'est un peu plus grave. Par contre c'est utile d'avoir un pilote comme Sutil, voilà, le jeu de mots, badumts. Je crois pas que je l'ai le badumts, donc je ne le mettrai pas en effet audio, je suis désolé, pas encore, peut-être un jour, peut-être. Bref, Sutil, c'est très utile de l'avoir parce que c'est un pilote d'expérience, donc évidemment pour aider à un développement, on va dire, correct de la monoplace tout au long de la saison, pour essayer de retrouver, on va dire, le chemin des points, c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de pilote et de ne pas avoir deux jeunes comme pouvait avoir Williams il y a quelques temps, c'est-à-dire les années précédentes. Alors que cette année, ils ont fait du gros changement, Williams. Mais ce n'est pas le propos. Donc, voilà. Et en plus, une erreur de Sauber, pas vraiment une erreur, mais ils n'ont pas réussi à retenir Hülkenberg, qui finalement a eu le bon nez. Hein. Mais son transfert, selon moi, il reste pas sans critique hein, de Sauber à Force India. Il ne reste pas sans critique. Mais voilà, il a bien flairé. Il a bien eu du flair sur ce coup-là. Peut-être qu'il était au courant aussi des déboires de Sauber au niveau financier, je ne sais pas. Donc voilà, pour survivre, parce que là on parle de la survie de Sauber évidemment, difficultés financières, peut-être une place catastrophique au championnat du monde des constructeurs qui ne donnerait à l'écurie suisse pas beaucoup de sous. Donc il faut parler de la survie. Pour survivre, on va peut-être compter sur un pilote payant la saison prochaine, un autre pilote payant, en la personne de Felipe Nasr. Felipe Nasr, qui n'est pas n'importe quel pilote payant, ce n'est pas un pilote qui n'a rien montré, qui a juste couru dans les monoplaces inférieures sans rien faire, puisque c'est un pilote quand même qui a pu remporter des titres et qui en plus en GP2 est assez chaud. Hein. Puisque l'année dernière, enfin en 2013, il a fini 4e du championnat du monde de GP2, et cette année, parce qu'il court en GP2 cette année, en plus d'être pilote d'essai chez Williams, Il court en GP2, il est deuxième provisoirement. Donc c'est quand même un pilote solide. Donc ce serait intéressant, même si c'est un pilote payant, c'est quand même un pilote qui a l'air de talent, un pilote jeune, qui pourrait vraiment avoir sa place chez Sauber. Et ce n'est pas des rumeurs, hein. Felipe Nasr a confirmé avoir des discussions avec Sauber à propos d'un baquet. Ensuite, il y a un deuxième pilote, ou plutôt une deuxième pilote, qui pourrait faire son entrée chez Sauber et qui pourrait créer, on va dire, le buzz, hein. C'est Simona De Silvestro. Et oui, qui serait peut-être la première femme en F1. Elle a déclaré être prête, hein, à entrer chez Sauber, à avoir le baquet Sauber dès la saison prochaine. Elle est motivée, elle est ambitieuse. Et pourquoi pas, ça serait déjà d'un côté marketing, ce serait pas mal pour Sauber, parce qu'ils en ont besoin également de se montrer sur la scène de la F1, d'avoir de la visibilité également, ça aide à évidemment avoir des sous, à avoir plus de ventes de produits dérivés, etc., plus de visibilité. Bref, c'est un cercle vertueux ou vicieux, voyez-le comme vous voulez, mais ça pourrait aider. Et à voir également si ce pilote, Simona De Silvestro, parce qu'il faut vraiment considérer ce pilote comme un autre, si elle peut faire des performances... des bonnes performances, on verra. On verra si jamais le choix de ce pilote est fait par Sauber. En tout cas, Felipe Nasr, discussion avancée. Pour finir, selon moi, Sauber, c'est l'illustration de ce qu'est un team de milieu de tableau. Une incertitude chaque saison, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette écurie de milieu de tableau va pouvoir prétendre à quelques podiums, si ça va être une écurie qui va être dans les points régulièrement ou pas, si l'écurie va être plutôt bonne en début de saison ou plutôt fin de saison. Généralement, c'est l'incertitude. On l'a bien vu ces dernières années avec Force India et Sauber et d'autres écuries également. On a bien vu que c'était quand même l'incertitude qui primait. Donc attention également au choix de carrière de certains pilotes, d'où mes critiques concernant le transfert d'Hülkenberg de la saison dernière. Ensuite, ça pose des questions. Concernant la F1, des questions plus générales qui me paraissent importantes. Par exemple, on attend vraiment une véritable réduction des coûts de la part de la plupart des écuries. Une réduction des coûts réels qui serait intéressante. Et ensuite, une redistribution des droits télé plus juste. Ça, c'est vraiment un thème qui revient chaque année. Mais le problème, c'est que les écuries doivent toutes s'entendre pour obtenir ce genre de mesures, ce que je trouve bête parce que, évidemment, chaque écurie a son propre intérêt et jamais, jamais les écuries n'arrivent à avancer sur ce point parce que les grosses écuries ne voudront jamais baisser leur budget, leur redistribution droit télé. Concernant la réduction des coûts, certaines écuries ne sont pas d'accord sur certains points ou font des propositions vraiment mineures. Hein. Jean Todt avait d'ailleurs vivement critiqué certaines propositions des écuries qui... était du vent concernant la réduction des coûts. C'était vraiment des propositions qui n'auraient pas vraiment réduit les coûts. Ça aurait été des propositions plus politiques qu'autre chose. Voilà. Mais ensuite, voilà, la FIA en elle-même, je ne sais pas comment est organisé le règlement sur ce point, mais je pense que sur certains points, certaines mesures sont subordonnées à l'accord de toutes les écuries. Et je pense qu'il faudrait changer ça. Parce que quand les écuries ont un intérêt personnel à ces changements, eh bien évidemment, elles ne s'entendent pas dessus. C'est d'une logique, mais... C'est d'une logique enfantine, j'ai envie de dire, presque. Mais voilà, j'ai envie de terminer sur une note d'espoir, parce qu'on a bon espoir sur le moyen terme avec les F1 hybrides là, de cette année, le fait qu'il y ait moins de carburant, tout ça, depuis quelques années, le fait qu'il y a moins de trains de pneus déplacés sur les Grands Prix, on a espoir qu'à moyen terme, quand même, la réduction des coûts se voie. Parce que cette année, elle ne s'est pas vue, parce que pour développer le moteur, pour développer la nouvelle monoplace et tout, il a fallu dépenser, je crois que c'est Adrian Newey qui disait ça, je crois que c'était 1 milliard d'euros, donc une somme astronomique. Mais voilà, il faut attendre sur le moyen terme pour voir vraiment les conséquences de... C'est cette nouvelle réglementation technique. Mais voilà, d'ici qu'on observe vraiment la réduction des coûts, si jamais elle arrive, combien d'écuries auront quitté le navire ? C'est une question ouverte que je pose, dont je n'ai pas de réponse. Voilà, c'est une question. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à réagir hein, d'ailleurs sur le Twitter de Analyse F1 que vous trouverez à @F1 Analyse. Attention, c'est @F1 Analyse ou sur la page Facebook Analyse F1. N'hésitez pas aussi avec le hashtag Analyse F1. Bref, vous avez divers moyens de réagir. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, à me poser des questions aussi, à faire part de vos sujets d'actualité que vous aimeriez que je traite. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Si je les trouve pertinents, je les traiterai évidemment. Il y a tellement à dire avec la Formule 1, donc je suis sûr que je ne pense pas à tout. Ça, c'est même sûr à 100%. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce numéro. Et n'oubliez pas, vivons notre passion. À bientôt.